Amen. À celui-là qui nous a sauvés, nous ne le dirons jamais assez. Amen, amen. Nous savons que nous ne sommes plus ce que nous avons été parce que nous n'étions pas comme ça. Mais si nous continuons à venir ici, c'est parce que nous ne sommes pas encore ce que nous devrions être. Alléluia. Et il n'y a pas autre chose qui peut nous aider pour que nous puissions le devenir. Ce que nous devrions être, si ce n'est la parole. La parole de notre Dieu. C'est pour cette raison que nous sommes tout le temps là. Et ça ne nous fatigue pas. Bien au contraire, ça nous donne la joie. Comme celle qui était dans David, qui pouvait dire, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. David pouvait dire un jour dans ses parvis, vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. David savait vraiment de qui il parlait. Alléluia. Que moi aussi, je puisse vraiment savoir de qui je parle. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Ça nous fait de la joie. Amen. Nous allons... je vous salue d'abord au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai oublié de faire ça. C'est aussi un devoir, hein, de saluer. Il y a tout un chapitre, je pense, dans la Bible, là, ce n'est que les salutations. C'est donc quelque chose qu'il ne faut jamais négliger. Même après le culte, là, il faut se saluer. C'est la parole de Dieu. Amen. Alors, nous allons lire maintenant. Je vais lire Genèse 35. 35 au verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Je vais ajouter Genèse 32 au verset 22. Ah non, au verset 24. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Nous allons prier. Nous prions, nous tous. Dieu notre Père, nous sommes dans la joie, oh Dieu, pour l'occasion que tu nous offres de nous retrouver encore autour de cette sainte table où nous sommes en train de nous nourrir d'une nourriture qui n'est pas de ce monde. Oh Seigneur, il est écrit dans la parole de Dieu que les enfants d'Israël, tu les avais nourris avec quelque chose qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils n'avaient jamais connu leurs ancêtres. Oui, Seigneur, permets encore que des choses inhabituelles puissent encore se manifester au milieu de nous ce quelque temps que nous allons passer ici, Seigneur, puisque nous ne cesserons jamais de le dire que tu es le Dieu de l'inhabituel, tu es le Dieu des choses inédites, tu es le Dieu de l'extraordinaire, des choses que nul autre ne peut faire. Ce ne sont pas des slogans, mais ce sont des choses que tu fais vivre au milieu de ceux-là qui t'appartiennent, Seigneur. Merci, ô Dieu, de faire encore de telles choses au milieu de nous, afin que vraiment, s'il y a un faible au milieu de ton peuple, que tu puisses le fortifier, Seigneur. Puisque la solidité d'une chaîne se mesure à son anneau le plus faible. Oh, si c'est moi cet anneau, Seigneur, j'ai grandement besoin d'être fortifié par toi. Si c'est mon frère et ma sœur, je prie de la même manière, Seigneur. Viens te mouvoir au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Alors, je vais relire un peu Genèse 35. Jacob dit à sa maison, la maison. Donc là, c'est les personnes donc, de sa famille restreinte, ces personnes avec qui il avait l'habitude de laver les linges sales. Puisqu'il y a un dicton qui dit que les linges sales se lavent à famille. Donc, ce n'est pas au salon devant les visiteurs que vous allez laver ce linge sale. Il y a des choses qui restent affamées. Voilà. Donc, c'est des choses, ce sont des personnes avec qui il avait l'habitude, bon, qu'il était le plus souvent, avec qui il était le plus souvent dans la salle à manger, la cuisine. Tout appartement a une salle à manger, donc qui est aussi, qui peut être aussi utilisée comme une cuisine. Voilà. Là, c'est au niveau de donc, la salle à manger. Et tous ceux qui étaient avec lui, disons par exemple, ce sont les visiteurs qui venaient lui rendre visite, et ainsi de suite. Ceux-là, on les reçoit au salon. Nous n'allons pas recevoir nos visiteurs à la cuisine. Nous n'allons pas les recevoir à la chambre à coucher, surtout pas ça. N'est-ce pas? Voilà. Alors, je vais relire alors le verset 24, là, Genèse 32. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui. Ici, c'est un seul homme, pas deux. Il lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. C'est donc un homme. Cela, c'est comme donc, une épouse avec son mari dans la chambre à coucher. Là, ils ne sont qu'à deux. Hein. Il n'y a que seul homme là-bas. Voilà. Ici, nous connaissons bon, l'histoire, l'expérience de Jacob. Il a eu une rencontre vraiment extraordinaire. Cet homme-là, c'était Dieu lui-même. Et Dieu l'a béni. Et voilà. Comme il a béni en tout cas, oh, Jacob s'est laissé interpeller. S'est laissé interpeller peut-être au chapitre 31, là, puisqu'il y avait quand même des choses qui ne devraient pas être dans sa maison et qui y étaient. Et Genèse 31, au chapitre, donc chapitre 31, verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba le teraphim. Dérober, c'est voler. Oh, mon fils Jacob, qu'est-ce que cet homme-là de voleur fait dans ta chambre à coucher? Hein? Moi, je devrais être ici seul. Et pourquoi cet homme est encore dans ta chambre? Nous avons lu que Jacob était tout seul là avec un homme. Mais on voit ici encore un autre, monsieur le voleur. Le voleur dans la maison de Jacob. Ah, il est interpellé, il dit oui, oui, éternel, vraiment, oui, je suis condamné, je suis interpellé. Ça ne devrait pas se faire comme ça. Alors, il a dérobé quoi les teraphim? Teraphim, ce sont des dieux étranges, des protections, des dieux païens. Oh, Jacob, tu ne sais pas que tu ne dois pas avoir de Dieu devant ma face. Qu'est-ce que ces teraphim font encore dans ta maison? Alors que je suis censé être seul dans ta chambre à coucher ici. Il y a aussi des teraphim. Ah, mon père, excusez-moi. Alors, c'est comme un drame. Hein? Teraphim de son père, et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Trompeur, un esprit trompeur qui était encore dans sa maison. Waouh! Alors, vraiment, l'Éternel devait lui reprocher toutes ces choses donc dans son cœur. C'est ainsi que vous voyez là, plus bas là, Jacob a pris la décision de chasser tous ces démons, toutes ces mauvaises choses qui ne devraient plus être dans sa maison. Alléluia. Oui. En fait, notre maison là, mine de rien, c'est toute une image d'une maison réelle et d'une maison spirituelle. Donc, ta maison et la mienne là, ton appartement, ce n'est pas juste des tôles, des tuiles, des briques. Ce n'est pas juste des vitres. C'est tout est sanctuaire. Tout est sanctuaire où tu dois adorer ton Dieu, où tu dois préparer la prédication, les réunions. C'est une lourde responsabilité. C'est donc pas un hasard. Dans ce monde, il n'y a pas de hasard. Tout a une signification. On n'aura pas le temps de lire les brochures, le frère Branham a parlé beaucoup. Et donc, par exemple, dans... Bon, on va lire peut-être juste... Hein, c'est juste, peut-être, on peut lire juste cet apratique, les pièces, tout ça. Donc, tu es... Bon, on peut lire juste ceci. Donc, la base de la communion, prêchée le 14-2-61, paragraphe 53. Il dit, en réalité, vous habitez une maison à trois pièces. La cuisine, le salon, la chambre à coucher. Les autres sont des petites annexes, des prolongements, ou même on multiplie beaucoup de chambres à coucher. Mais il n'y a que ces trois pièces de base. Et ce n'est pas un hasard. Ça typifie des choses spirituelles. Ça typifie ce que tu es comme être. Puisque comme être, tu es le corps, tu es l'esprit, tu es l'âme. Ça typifie ce que Dieu est. Puisque Dieu, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Ça typifie les étapes, les différentes étapes de la grâce. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Ça typifie toutes ces choses. Ça typifie le temple, dans l'Ancien Testament, le parvis extérieur, le salon, et non, le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Voyez, donc, quand vous entrez dans les choses de Dieu, tout vous parle de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Vous comprenez que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Vous pensez à des choses d'en haut. Toutes vos pensées sont là. Vous ne pensez pas juste à des briques, juste à des vitres. Non, non. Ta maison, c'est un type. Alléluia. Amen, amen. Donc, c'est ça. Et voilà. Donc, quand tu es dans ta maison, tu peux aussi être interpellé par le Seigneur. Il dit, mon fils Anatole. Oui. Et qu'est-ce que cet homme fait vraiment dans ta chambre à coucher? Cet homme-là qui s'appelle, la première lettre c'était, c'est le téléphone. Monsieur le téléphone, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu as tout le temps à faire avec monsieur le téléphone? Dans la chambre à coucher, tu es avec lui. Toute la nuit, tu ne dors presque pas avec monsieur le téléphone. Souviens-toi du fait que je suis un Dieu jaloux. Moi, avec moi, tu ne fais même pas une minute. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais avec monsieur le téléphone? Dans ton salon, les autres sont en train de communier. Entre eux, ils parlent, entre eux, en tant que frère et soeur. Mais toi, téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce téléphone? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce téléphone? Tu ne manges même plus, tu vas maigrir. Hein? On a servi à manger là, mais toi, téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas avec monsieur le téléphone? Même quand tu vas au boulot, dans le métro, au lieu de lever la tête, les yeux vers le ciel, parce que les temps sont très très fâchés, bientôt c'est l'enlèvement, mais toi c'est téléphone. Et là, Dieu nous interpelle aussi. Il nous interpelle. Jusque dans les moindres détails, il nous visite dans nos maisons, il voit, ah, il voit un monsieur là, un esprit qu'on appelle Coupe du Monde. Et tout tes amène là, tu l'acclames plus que jamais auparavant. On t'a jamais dit amen à l'assemblée, mais devant la Coupe du Monde là, oui, c'est des acclamations extraordinaires. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Ici, même pas un amen. Quand tu dois taper les mains pour chanter, tu le fais comme un homme civilisé, entre guillemets, comme ça. Tandis que là, c'est... Maintenant, qui est ton Dieu, en fait? Hein? Ça doit nous interpeller. Amen, amen. Qu'est-ce que ça fait dans ta maison, toutes ces jupes courtes, la fendue? Je suis censé être seul dans cette maison avec toi. Alléluia. Alors, le sujet pourra être celui-là. Quel type de maison tu es en train de bâtir pour l'Éternel? Quel type de maison? Amen. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser, puisqu'on n'aura pas beaucoup de temps peut-être, juste à la cuisine. À la cuisine. Voilà. La cuisine, c'est donc spirituellement, voilà, je suis en train de passer au premier niveau de spiritualité dans laquelle nous pouvons nous retrouver. Il y a plein de gens qui sont encore à ce niveau-là. Et Frère Branham le dit dans une brochure, c'est des millions. Hein? Nous allons nous baser sur une écriture pour voir ça. C'est Luc 17. Luc 17. Une écriture, Luc 17. Voilà. Luc 17, verset 11. Jésus se rendit à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ah, voilà, à ce niveau-là, quand on est à ce niveau, on reconnaît quand même que Jésus-Christ, c'est lui le grand médecin, celui-là qui peut guérir même des maladies incurables. Donc ici, nous sommes en train de voir les caractéristiques des personnes qui sont, par exemple, encore à ce niveau-là. C'est pour que chacun puisse examiner pour dire, est-ce que je suis encore à ce niveau? Ce premier niveau de spiritualité, tous ces 40 ans dans le message que j'ai passé, est-ce que je suis seulement à ce niveau-là? Vous savez que ça ne peut pas réjouir ton père, comme ça ne peut pas nous réjouir quand un enfant ne grandit pas. Alléluia. Amen. Alors, donc il y avait les dix lépreux. La lèpre, c'était une maladie vraiment très, très, très grave. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas, je pense, de médicaments contre ça. Une maladie qui te détruit à petits morceaux. Mais ils ont reconnu que ah, celui-là, Jésus, il n'est pas n'importe qui. Il faut aller auprès de lui. Amen. Vers sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix. À ce niveau-là, on connaît l'importance de la prière. C'est bien. Ils élevèrent la voix envers Jésus-Christ, la seule personne qui pouvait les délivrer. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître. Ils reconnaissent aussi que Jésus, c'est le maître. Ils reconnaissent que Jésus a cet attribut de maître. Oui, c'est toujours bien. Il y a beaucoup de bonnes choses, oui, qui peuvent se manifester dans la vie spirituelle de telles personnes qui sont encore à ce niveau-là. Ils disent même, aie pitié de nous. Oui, ils reconnaissent l'attribut de notre Seigneur, comme quoi il est miséricordieux. Là, la colère riche en bonté. Ça, c'est très bien. Alors, nous continuons avec la lecture. Et dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Ah, quelle bonne chose! Et tous étaient dans la joie. Il n'y a personne qui ne peut pas être content de la guérison dans ce corps. C'est une très, très bonne chose. L'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris? Il est neuf autres. Où sont-ils? » Voilà le problème. Donc, et ils ont eu ce qu'ils ont demandé. Pour eux, c'est fini avec Jésus. Donc, une de leurs caractéristiques, c'est Juste demander, donne-moi. Donc, leur prière, c'est toujours donner. Ils oublient une chose. Ils oublient qu'eux aussi peuvent donner. Hein? Chaque Dieu du Seigneur est don particulier. Quel jour il veut parler comme Pierre. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Chacun a quelque chose à donner. Ils ont oublié aussi, enfin, ils n'ont pas eu la lumière sur... c'est Romain ou quoi? Attendez, je vais chercher ça. Ils n'ont pas eu la lumière sur... Je vais chercher le verset là que je vais lire. Oui, le verset qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça se trouve où ça, ce verset-là? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand vous donnez, il n'y a plus de bonheur. Et là, c'est un des secrets du Seigneur Jésus-Christ. Lui a donné. Il nous a donné sa vie pour qu'il puisse prendre notre mauvaise vie qui a été clouée sur le calvaire. Alléluia. Donc, à ce niveau-là, premier niveau de spiritualité, on oublie toutes ces choses. Chacun a un don particulier qui doit mettre au service des autres. Nos prières ne doivent pas se limiter seulement « donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Non. Voilà. Et quoi encore? Ils ont oublié aussi un verset très, 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 très important qui est dans les Thessaloniciens. Thessaloniciens, où est-ce que tu te caches? Thessaloniciens 5. Hein? Ah, je le cherche encore. Oui. Thessaloniciens 5 qui dit ceci, verset 16, 17, 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce à toutes choses. Quel jour il va prier seulement pour dire merci au Seigneur? Il va prier, même passer 2 jours, 3 jours en disant seulement merci. Nous avons beaucoup de choses pour lesquelles nous devons les remercier. Nous devons les remercier pour nous avoir réveillés ce matin. À bonne santé, sa bienveillance est renouvelée pour nous. Il y a plein qui n'ont pas eu la grâce que nous avons. Alléluia. Nous devons les remercier puisque la nuit, nous n'avons pas su tout ce qui s'est passé la nuit. Mais lui, il est celui qui nous donne une sommeil. Nous devons les remercier puisque même maintenant, son ange est là. Son ange ne nous a pas quittés. C'est celui-là qui a aidé Gédéon qui ne serait plus au milieu de nous maintenant. C'est l'ange du Seigneur qui est allé protéger Gédéon pour que Gédéon ne puisse pas mourir. Hein? Pourquoi ne pas remercier un tel Dieu? Amen. Nous avons même beaucoup de paroles quand nous remercions le Seigneur. Vous savez qu'il y a un prédicateur américain qui avait fait de ce verset son cheval de bataille. Lui ne demandait pas. Quand vous veniez, par exemple, auprès de lui, dit « Ah, frère, prie pour moi parce que j'ai la malaria. » Ah, il disait « Merci, Seigneur, d'avoir permis que mon frère puisse attraper la malaria. » Alors, le frère disait « Mais, ah, comment ça? Tu es content du fait que je sois malade, frère ?» Il dit « Non, je ne suis pas content. C'est juste pour vous dire que le diable n'a aucun pouvoir de te donner même cette malaria-là. C'est le Dieu qui a permis. Il a permis que le diable te touche. C'est pour montrer davantage l'autorité de notre Dieu. Amen. Tu as permis ça, Seigneur. Donc, toi qui as permis ça, tu es plus que capable de faire partir. Alléluia. Donc, voilà. Lui ne priait que de cette manière. C'était toujours ça, sa prière. Et j'avais lu ce livre-là. Il a eu des témoignages, des miracles et des miracles. Donc, lui n'était plus dans ses premiers niveaux. Il savait ce que ça signifie remercier le Seigneur. Vous savez que le Seigneur, là, il a dit dans ce que nous venons de lire. Il dit maintenant, où sont les autres là? Ils ne sont même pas venus me dire merci. Il n'y a que ce Samaritain qui est venu me dire merci. Donc, Dieu aime qu'on puisse lui dire merci. Il aime ça. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, à ce niveau-là, je pense que chacun est en train de voir, est-ce que je suis vraiment dans ce niveau? Ou peut-être non, moi je ne suis pas là en tout cas. J'ai déjà dépassé ce niveau-là. À ce niveau-là, vous voyez, voilà, il a eu, il a demandé la voiture ou le travail au Seigneur. Après, on ne les voit plus à l'église. Ah frère, mais on avait prié pour toi, comment? Oui, oui, j'ai déjà le boulot. Mais tu ne viens plus à l'église. Ah ouais, mais bon, c'est difficile maintenant. Alors, donc ça a été une malédiction pour toi. Voilà. Alors que le Seigneur t'a fait ça pour que tu puisses les remercier. Tu puisses dire, maintenant pour moi, je ne peux plus rater l'assemblée. Alléluia. Dieu soit loué. Oui, dans cette catégorie, dans ce niveau-là, donc... on tourne tout le temps autour des choses qui nous seront ôtées. Tout le temps, tout le temps. Ah, le travail. Mais ça nous sera ôté un jour. Ah, débarrasse-moi de la lèpre. Mais il suffit que tu passes encore à côté des lépreux là-bas. Tu seras contaminé. Donc, toutes ces choses-là nous seront ôtées un jour. Mais il n'y a que la parole qui ne nous sera pas ôtée. Il n'y a que Jésus qui ne nous sera pas ôté. C'est ce qu'a compris le dixième lépreux. Il est allé auprès de Jésus pour lui dire, « Merci Seigneur, merci de ce que tu viens de faire pour moi. » Et alors, il a eu un plus. Hein? Les autres ont eu la guérison dans le corps. Le Seigneur a dit, « Ta foi t'a sauvé. » Il a eu le salut. Parce que quand tu as ça, c'est fichu, c'est fini. Il n'y a personne qui peut te les ravir. Il n'y a aucun enfant de Dieu, comme je l'ai toujours dit, qui ira en enfer. Même si nous avons fait des bêtises dans ce monde. À partir du moment où tu es enfant de Dieu, voilà, tu iras au ciel. Cela ne veut pas dire que tu, si tu es enfant de Dieu, tu auras la crainte de l'éternel, la haine même du péché. Cela ne veut pas dire que tu dois maintenant commencer à jouer avec les péchés. Cela veut dire qu'il n'y a rien à toi. Mais quand tu as la chose, hein, tu auras la crainte de l'éternel. Amen. C'est ça la grâce elle-même. La grâce nous enseigne justement à renoncer à ces choses. Comme cela est écrit dans le livre des Galates. Alléluia. Je ne sais pas si... Voilà. Bon. Alors, à ce niveau-là, donc, comme nous venons de le voir là, vous voyez, c'est toujours donner, donne-moi. Donc, de tout ce que le Seigneur, la personne ne s'intéresse qu'à la main du Seigneur qui donne. Dieu, le Seigneur n'a pas que la main qui donne. Le Seigneur a beaucoup de choses. Et cette main-là, il peut aussi l'utiliser pour te corriger. Ces gens n'aiment pas qu'on puisse corriger. Ah, vous, là, c'est la loi. Non, c'est pas la... C'est, tout est écrit là-bas dans la Bible. Hein? Hein? Et fouiller l'impudicité, ce n'est pas le prédicateur qui le dit. Quand on dit ça, ce n'est pas la loi. C'est toujours la grâce. Alléluia. Amen. Fouiller l'impudicité. Fouiller l'idolâtrie. Ça, c'est dans le Nouveau Testament même. Donc, il est le Dieu. Il faut considérer les deux choses et la bonté, la sévérité de Dieu. Amen, amen. Sinon, alors, on a seulement une partie. Dieu n'est pas une partie. Il est l'entièreté de la parole. Alléluia. Amen, amen. Alors, donc, c'est ça, le premier niveau, c'est comme ça. Donc, pour savoir si tu es dans ce niveau, il faut considérer ta manière de prier. Comment tu pries? Hmm? Quelles sont tes prières tout le temps? Toi, toujours les choses agréables. La deuxième chose, pour savoir si je suis dans ce niveau-là, tu peux essayer de voir comment, ça on va lire ça même dans Jean Jean 3.
Comment tu manifestes ta foi? La foi.
Jean 3. Il y a un monsieur qui peut nous donner là un type dans Jean 3. Mais au premier verset, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Il vient la nuit. Il a peur ou honte de ses collègues pharisiens, mais quand même, il fait quand même toujours une bonne chose puisqu'il vient auprès de Jésus. Il lui dit, Rabbi, nous savons. Ah, c'est ça la foi des gens qui sont dans ce premier niveau-là. La foi de nous. La foi d'imitation. On imite beaucoup. Puisque c'est le niveau de la famille. Là, donc, les enfants imitent leurs grands frères, les grandes sœurs. Ils imitent leurs parents. C'est comme ça qu'ils apprennent. Hein. Et on imite même les bébés sous forme de poupées. Hein. Donc, poupée, c'est vraiment... on a imité un véritable pépé, donc un véritable bébé. Donc, on construit la poupée sur base d'un véritable bébé là, qu'on a imité. Mais ce n'est pas un vrai bébé. Le vrai bébé, on ne l'a pas à la cuisine. Le vrai bébé, c'est dans la chambre à coucher. Alléluia. Excusez-moi. Bon. Alors, la foi, ce n'est pas la foi de nous. Et Jésus l'a directement corrigé d'ailleurs. Donc, nous savons que tu es docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, toi. Moi, je ne parle pas avec le vous là-bas, mais c'est toi. La foi, c'est une expérience personnelle. Aussi longtemps que vous êtes dans le nous là, point d'interrogation. Vous êtes encore peut-être dans ce niveau, le niveau le plus bas, spirituellement par là. Voilà. Vous êtes un enfant de Dieu, mais il faut quitter ce niveau. Il faut aller, il faut monter. Alléluia. Alors, le nous là, justement, c'est un niveau très bas. Et c'est un niveau d'imitation. Et la foi en question, c'est une foi mélangée souvent avec la honte. Déjà comme ça, ils ont le courage, ils ont ça seulement à l'assemblée. Mais il faut regarder en public, ils ont honte de Jésus-Christ. Ils ont honte comme la femme de David. David, le roi. Il se trémousse, il danse là. Sa femme n'était pas contente. Dis, comment tu dois faire ça devant tes subalternes? Donc la femme avait honte à la place de David. La femme, parce que les généraux là sont au plus d'importance que le Seigneur. Les chefs au plus d'importance que le Seigneur Jésus-Christ. Elle oublie que c'est Jésus-Christ qui est le roi des rois. Et David le lui a dit, hein. Il dit, mais ce n'est pas devant ces gens que je danse. Je danse devant celui qui est le roi des rois. Celui-là qui m'a ramassé derrière les brebis de mon père. Il faisait ça parce qu'il savait là où le Seigneur l'a ramassé. Il n'était rien du tout. Et quand tu réalises ça, mais... Le droit de regard des autres ne te dira rien. Mais c'est des millions qui sont encore dans cette situation. Nous avons encore beaucoup honte du Seigneur. Malheureusement, c'est pitoyable. Et Paul pouvait dire, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ne vous en faites pas, même parmi les prédicateurs. Il y a plein qui sont encore dans ce niveau-là. Alors là, oui, le frère Branham parle d'un grand prédicateur américain qui, vous les connaissez très très bien, c'était grand. C'était Nassir, et il était avocat, il était devenu prédicateur, c'est Charles Finet. Charles Finet, il prêchait avec force, déjà au début de son ministère là-bas. Il maîtrisait la parole. Donc, si vous savez que si vous n'êtes pas dans l'esprit, vous allez voir seulement hein, le français là. Vous allez voir justement comment on maîtrise la parole, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça l'essentiel. Donc, quand il était en train de prêcher comme ça, il y avait deux dames et deux sœurs seulement. C'est souvent déjà qui sont effacées là, qui sont remplies du Saint-Esprit. Même quand je suis en train de parler comme ça, mais ils sont en train de m'examiner là-bas. C'est ici qu'il faut faire attention. Ils sont en train de voir si réellement j'ai la chose dont je parle. On ne peut pas les tromper, ces gens-là. Alors, ces sœurs-là l'ont appelé. Dit oui, en tout cas, frère pasteur Finet, hein, tu prêches très bien. En tout cas, hein, tu as maîtrisé même la parole. Mais il faut rechercher le Saint-Esprit. Ah! Finet a dit, mais je prêche! Hein? Non, nous, on ne parle pas de prêcher, mais le Saint-Esprit. Prêcher, cela ne veut pas dire que c'est ça le Saint-Esprit. Hein? Ah, Finet a discuté ces jours-là. Voilà. Mais il n'a pas injurié les sœurs. Puisqu'il y en a les autres là, alors qui se fâchent directement. Il y a parmi les prédicateurs beaucoup de gens qui sont vraiment des orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueils. Il fait grâce aux humbles. Aussi longtemps que tu es dans cet orgueil-là, ne va pas t'utiliser. Hein? Heureusement qu'il est. Bon. Il s'est tué, mais il n'était pas d'accord avec ses sœurs-là. Mais un jour, voilà, Dieu s'en est occupé lui-même. S'est occupé de lui. Voilà. Parce qu'il avait quand même l'habitude d'aller prier. Donc, il travaillait quelque part sous la direction des patrons, un grand chef. Alors, quelquefois, souvent d'ailleurs, il profitait de quelques moments pour s'éloigner un peu, en brousse, un peu à côté de son bureau. Alors là, il priait, « Ah, Seigneur, béni !» Pah ! Il y a eu une branche qui était tombée. Il a interrompu sa prière. Voilà. Donc lui qui est censé entrer dans la prière du Seigneur, quelque chose tombe là-bas. Il interrompt la prière. Pourquoi il avait interrompu? Il dit qu'il a pensé que c'est son patron qui est venu le chercher. Alors, quand il a eu cette circonstance-là, vraiment, il a été très mécontent. Il dit, mais comment je dois continuer à avoir honte de parler? De manifester ma voix, ma foi, même devant mon chef. Hein? Mais si les gens me voient en train de parler à mon chef, avec mon chef, mais je suis content. Mais ici, je suis censé parler à celui qui est le chef des chefs. Pourquoi je dois avoir honte? Il a commencé à pleurer amèrement. Il dit non, non, non. Réellement, c'est les sœurs-là avaient raison. Je ne passe ce dont je parle souvent. Il a dit, je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit. Il a pleuré après. Alors, Dieu lui a donné la chose. Et quand il lui a donné, il est sorti de là, criant terriblement. Donc, ça ne le quittait pas. Il a dit, mais finalement, je vais retourner au bureau. Mais Seigneur, calme ça. Parce que il est allé se cacher derrière la porte. Il dit, mais je me cache ici, Seigneur. Afin que la chose se termine quand même avant que je n'entre au bureau, c'est caché derrière la porte là-bas. Il criait. Et finalement, ça s'est calmé. Après, donc, il a été un grand. Il y a eu beaucoup de miracles, puisqu'il a eu finalement la chose. Amen. Avant, il n'était que dans le premier niveau, tout en état prédicateur. Hein? Voilà. C'est une chose que nous devons rechercher. Amen. Ah. Voilà, ok, on est en train d'y aller. Donc, dans ce premier niveau-là, les gens ont encore ils ont honte de manifester leur foi en public. Ils ont aussi peur. Ça, c'est le cas de Pierre que nous connaissons, qui est écrit dans la Bible. À partir du moment où il y a la honte et la peur, c'est que la foi n'est pas là. Ce sont deux choses-là qui ne peuvent pas coexister. Mais maintenant, c'est cet esprit de honte qui freine beaucoup les gens qui sont dans ce niveau-là. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur disait ça constamment. Soyez sans crainte, c'est moi. Il chassait d'abord la peur là-bas. Cet esprit de crainte et cet esprit de honte, que Dieu nous assiste. Les gens qui n'ont même pas la vérité, n'ont même pas honte de leur religion. Mes frères Branham pouvaient dire, je n'ai jamais vu des chrétiens, puisque beaucoup sont encore dans ce premier niveau-là. Je n'ai jamais vu des chrétiens qui ont honte de leur, des gens qui ont honte de leur religion comme les chrétiens. C'est très pitoyable. Que Dieu nous assiste vraiment. Amen. Parce que la foi, le problème c'est que à ce premier niveau-là, les gens pensent que la foi c'est juste comme je suis en train de parler comme ça, vous aurez la foi. Non, c'est parce qu'on ne comprend pas les versets. La foi vient de ce qu'on entend. Ça ne s'arrête pas là. Ce qu'on entend là, c'est tout le monde qui peut attendre. Mais derrière la prédication, il y a une voix mystique. Cette voix doit te parler et alors tu auras la foi. Aussi longtemps que tu n'as pas la voix, tu feras des va-et-vient. La foi, c'est quelque chose de personnel. Quand un prédicateur peut prêcher même pendant 2 heures là-bas, il n'y aura que peut-être une seule phrase qui va être personnelle pour toi, qui sera vivante pour toi, qui va te donner la conviction, qui te donnera la direction, et ainsi de suite. Et ça, c'est à ce moment que la foi entre. Donc, quand on est dans cette première étape-là, on pense que non, le fait que je suis à l'église, j'aurai la foi. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut seulement aimer ce Dieu-là. Quand tu l'aimes réellement, puisqu'il donne ça à ses amis. Il a dit ça à Daniel. Donc, la parole est sortie. Avant que dès que tu as commencé à prier là, je suis venu pour te l'annoncer. Pourquoi? Parce que tu es bien-aimé. Quand tu aimes Dieu, sachez que lui, il t'a aimé le premier. C'est déjà un signe qu'il t'aime. Oui, puisque tu ne peux pas l'aimer de toi-même comme ça. Donc ça, vraiment, quand tu as l'amour de la vérité, l'amour de Dieu, tu es bien heureux et tu auras la chose. Et Dieu va te donner la chose qu'on appelle la foi. La foi, c'est quelque chose dont nous parlons beaucoup, mais beaucoup, nous n'avons pas ça. Nous avons la foi d'imitation, par exemple. Quand nous parlerons, par exemple, de la chambre, du salon, on va parler, par exemple, de la foi intellectuelle. Hein? Mais il y a la vraie foi qui est la révélation. C'est Dieu qui te révèle quelque chose. Quand il te révèle ça, le monde entier n'a aucune puissance pour te ravir ça. C'est fini. Une bonne fois pour toutes. Alléluia. Amen. OK. Voilà. Donc, c'est comme par exemple ce qui s'était passé dans la maison de Lydie. Paul est en train de prêcher. Il y avait beaucoup de femmes, mais la Bible dit que le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie pour qu'il soit attentif à la parole. Voilà, c'est ça la foi. C'est lui-même. Le prédicateur, il peut s'aimer, il peut planter, mais celui qui fait croître, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. Maintenant, on peut toujours justement savoir si on est dans ce niveau-là. Par justement la vie que tu mènes toi-même vis-à-vis du monde et des choses qui sont dans le monde. Et là, nous pouvons nous baser sur 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3. Au premier verset. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Waouh! Là, il est en train de parler à des gens qui sont dans l'église, des Corinthiens. Mais il n'a pas dit qu'ils sont charnels, ils sont comme. Dans ce premier niveau, c'est vraiment comme un mondain, tantôt comme un chrétien. Et là, ces changements-là sont vraiment très spectaculaires. C'est, nous tous, nous avons un peu ça. Donc, dans le premier niveau, c'est comme ça. Deuxième niveau, ça commence à être comme ça. Troisième, voilà. Donc, c'est très spectaculaire là-bas. Donc, quand il fait les choses du monde, tu vas dire, ah, est-ce que c'est encore un chrétien, vraiment? Mais c'est un enfant de Dieu. Mais il est dans un niveau très bizarre. C'est le premier niveau. Donc, ils sont comme des hommes charnels. Et là, il y a un verset qui appuie ça, qui dit que aussi longtemps que l'héritier comme un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Il n'y a pas tellement de différence. Puisque tantôt, il fait. Voilà, ils sont comme des hommes charnels à ce niveau-là. Mais pourquoi le haut et le bas? En fait, pourquoi ça? C'est parce que j'ai lu dans une brochure, là, le frère Branham qui disait, il savoure Jésus-Christ sous sa forme extérieure seulement. Ça signifie quoi? On peut lire dans Matthieu 13. Jésus-Christ n'est pas seulement sous sa forme extérieure. Il est aussi sous sa forme intérieure. Et nous ne connaissons plus personne selon la chair aujourd'hui. Nous connaissons Jésus selon l'esprit. Mais il a des serviteurs, des prédicateurs. Mais beaucoup de gens seulement sont attachés seulement à la prédication donc, d'un homme. Et ne reçoivent pas ce qui est derrière la prédication. Même la Bible ici. Chaque verset biblique là, il y a une voix là qui est derrière, que vous devez capter. Bon, on va lire rapidement Matthieu 13 là. Matthieu 13. Matthieu 13, au verset 34. Non, 36. Alors, il c'est le Seigneur. Il renvoya la foule. Voilà. Donc, il était en train de parler à la foule. Dans cette foule, il y avait aussi ses disciples. Comme maintenant ici. Nous sommes tous là-bas. Les vrais croyants, les soi-disant, les incrédules, tous nous sommes là. N'est-ce pas? Alors, il renvoya la foule. Voilà. Il veut maintenant... Avant, donc, il était là sous sa forme extérieure. Et entra dans la maison. Il se cache. Il n'a même pas appelé ses disciples. Hein? Il entra dans la maison. Là, c'est Jésus sous sa forme cachée. Maintenant, les gens qui sont dans le premier niveau là, ils ne savourent Jésus que là, à l'extérieur de la maison. Donc, les choses extérieures. Alors, il entra dans la maison. Maintenant, et vous voyez maintenant là où il y a l'amour, hein, il n'a pas appelé ses disciples. Ses disciples s'approchèrent. Ce sont des, parce qu'ils aiment ça. Les autres sont partis. Compris ou pas, ils partent. Ah! Mais si vous voulez vraiment comprendre, il s'approche comme une femme s'approche de son mari dans la chambre à coucher, par l'amour. Donc c'est toujours l'amour de la vérité. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Voilà, les autres sont à l'extérieur. Ils sont attachés aux choses extérieures. Extérieur. C'est justement ce qui s'est passé aussi dans le temple. Vous savez que dans le temple, là, la manne tombait, c'est la manne ordinaire. Cette manne-là vieillissait en un seul jour seulement. Et le lendemain, il fallait avoir une autre manne. Mais vous savez aussi qu'il y avait une manne qui était conservée dans le lieu très saint. celle-là ne vieillissait pas. Et c'est là la différence, donc, qui pouvait se voir entre les gens du premier niveau-là et un homme comme Moïse. La Bible dit que c'était l'homme le plus patient qui puisse exister, qui pouvait exister. D'où lui venait cette patience-là? Parce qu'il mangeait de la manne cachée. Les autres, là, tout le temps de murmures. Ils n'avaient comme manne que la manne ordinaire, la manne de l'extérieur. Ça, c'est le type de premier niveau. Donc, ils n'ont pas la... À terme facile, ils n'ont pas la révélation. Ils viennent, ils retournent, sa révélation. Mais vous avez droit à ça, vous pouvez réclamer. Dites, Seigneur, je n'ai pas compris aujourd'hui. Hein? Révèle-moi. Il va te révéler. C'est ce qui montre que tu as l'amour de la vérité. Alléluia. Amen. Alors, voilà, ça c'est une caractéristique. Donc, 1 Corinthiens 3, c'est des gens qui sont comme vraiment des charnels, mais ils sont toujours des enfants de Dieu. La Bible les appelle des enfants à Christ. Ils sont des enfants à Christ. Donc, leur comportement, c'est les comportements comme des enfants. Alors, on va voir, on va terminer, je crois, d'ici là. Comment ils vont se comporter, des enfants à Christ. 1 Corinthiens 3. Alors, vous êtes encore charnel, au verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, plein de jalousie. Plein de jalousie, puisqu'ils ne savent pas qu'ils ont quelque chose qu'eux aussi peuvent partager avec les autres. Il ne faut que jalouser les autres. Ah, c'est parce qu'on est dans le premier niveau, la jalousie. Mais pourquoi avoir de la jalousie alors que toi, tu as quelque chose aussi, hein, que les gens peuvent jalouser à toi. Voilà, la jalousie. Quoi encore? Des disputes et des disputes. Voilà, une autre caractéristique. N'êtes-vous pas des charnels? Donc, des disputes comme les enfants. Il faut aller dans les maternelles. Comment les enfants se disputent là-bas? C'est terrible. Des disputes. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alors, l'autre caractéristique, c'est ceci. Moi, je suis de Paul. Un autre, moi, d'Apollos. Moi, je suis de Branham. Moi, je suis de Frank. En tout cas, Frank a même dit ça. Il dit que c'est de la fantaisie. Frank, qu'est-ce que Frank a fait pour toi? Est-ce que c'est Frank qui t'a sauvé? Lui-même a écrit ça dans une lettre circulaire comme ça. Et ça continue malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Des franquistes, de je ne sais pas qui. Il y en a qui disaient même, comme je l'ai dit la fois passée, que quand frère Barillier était encore vivant, il dit qu'il n'y a que deux personnes qui ont le Saint-Esprit. Il n'y a que Frank et Barillier. Mais des choses bizarres. Comment tu peux être content de dire ça? Donc, toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Moi, ça ne peut pas me réjouir. Hein? Donner le Saint-Esprit seulement à Franck et à Barillier. Moi, je n'ai pas ça. Non, non, non. Je ne peux pas être content. Je dois dire, non, Seigneur. Moi aussi, je veux avoir le Saint-Esprit comme les autres là. C'est ça l'amour de la vérité. Alléluia. Amen, amen. Donc, c'est l'amour qui donne vraiment la foi. On peut lire ça peut-être, on va terminer. Et on va passer à service d'adoration. Galates 5:6. Galates 5:6. Il est dit ceci. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de la valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. C'est quand tu aimes quelque chose, alors Dieu va te donner ça. Tu aimes la parole, la vérité, Dieu va te donner ça. Tu vas maintenant progresser. Quand tu n'aimes pas, tu vas régresser. Voilà, tu vas régresser quand tu n'aimes pas la vérité. La Bible le dit clairement, Ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité ont leur avoir une puissance d'égarement. Ils ne cessent d'aller de mal à mal, de mal à pis. C'est comme ça se voit même aujourd'hui. Il y en a qui, la Bible, comme le bien-aimé frère François prêchait la fois passée là, la Bible dit clairement que ce qui doit nous réjouir, ce sont les choses écrites. Mais toi, tu te réjouis des choses qui ne sont pas écrites. Les tonneurs, moi je connais ce qu'on dit, les tonneurs. Où est-ce que tu as vu ça dans la Bible alors qu'on a dit que vraiment ce sont des choses écrites qui doivent nous réjouir? Voilà. Voilà, à partir de ça, on peut comprendre pourquoi ils sont allés comme ça. Maintenant, après les sept tonnerres, c'était, voilà, Branham, c'est le troisième Adam. Après ça, c'était, oh, Branham, c'est le fils de l'homme. Après ça, ah, nous sommes déjà levés. Vous voyez qu'ils sont en train de s'engouffrer tout le temps. Des choses très bizarres. Après ça, oui, alors, c'est... Maintenant, c'est comme... Le jour où, je ne sais pas, le frère Abel est là. Ah oui. Le jour que Abel va bénir son mariage. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, ça c'est Branham qui vous bénit. Donc Branham vient de vous bénir. Ça c'est terrible. Donc c'est de l'idolâtrie. Donc Branham qui est mort, il vient de bénir le mariage. Ça se fait à Kinshasa. Oui. Alors, et quand on... Quand on baptise quelqu'un, donc, toi, tu dois te plonger, toi-même, tu dis, Branham t'a baptisé. C'est triste. Ils sont en train d'aller vraiment de plus en plus dans le mal. C'est comme ça parce qu'ils ont accepté les mauvaises choses. Ils n'ont pas l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, c'est l'amour de ça, de la Bible. Alléluia. Amen. Alors que même les prophètes qu'ils vendent beaucoup, ils pouvaient dire maintenant mon absolu, c'est ça. Et pour tous ceux-là à qui je prêche, c'est la Bible qui est mon absolu. Alléluia. Bon, nous allons nous mettre debout. Nous allons vraiment demander que le Seigneur nous assiste. Vivre comme lui, vivre comme Jésus. Alléluia, vivre comme Jésus. Je veux vivre comme Jésus de toute ma vie. Vivre comme Jésus. Oh, parler comme lui. Jésus, alléluia, parle comme Jésus. Je veux parler comme Jésus de toute ma vie. Parle comme... Oh, marche, marche. Oh, alléluia, marche comme Jésus. Je vais marcher comme Jésus de toute ma vie. Marcher comme... Oh, prêcher, prêcher. Mais Jésus, alléluia, prêcher comme Jésus. Je vais prêcher comme Jésus de toute ma vie. Prêcher. Vous pouvez prier déjà. En rapport avec la prédication, moi je vais continuer à chanter à la douceur. Comme Jésus, alléluia, marche comme Jésus. Vais marcher comme Jésus de toute ma vie. Marcher comme Jésus. Oh, parlez, parlez, parlez comme Jésus. Alléluia, parle comme Jésus. Je vais parler comme Jésus de toute ma vie. Parle comme Jésus. Oh, marche, marche, marche comme Jésus.
Oh, alléluia, marcher comme Jésus. Je veux marcher comme Jésus de toute ma vie. Marcher comme Jésus. Oh, prier, prier, prier comme Jésus. Oh, alléluia, prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus de toute ma vie. Prier comme Jésus. Oh, chante, chante, chante comme Jésus. Oh, alléluia, chante comme Jésus. Je veux chanter comme Jésus de toute ma vie. Chante comme Jésus. Priez, priez, priez comme Jésus. Alléluia, priez comme Jésus. Je veux prier comme Jésus de toute ma vie. Priez comme Jésus.
Faut pas chercher à prier comme Branham. Faut pas chercher à prier comme chanter comme je ne sais pas affiner. Faut pas. Faut chercher à chanter comme Jésus. Chercher à prier comme Jésus. Chercher à adorer comme Jésus. Les autres, on peut les imiter car ils sont des imitateurs de Jésus-Christ. Puisque Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs. Comme moi-même, je le suis de Jésus-Christ. Alléluia.
Comme marcher comme Jésus. Je veux marcher comme Jésus de toute ma vie. Marcher comme Thank you.
Voilà, on a les yeux fermés. Je vais demander donc à ceux-là qui pensent qu'ils sont encore dans ce premier niveau de lever la main. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on a, de ce qu'on est. Voilà. Merci. Donc, laissez les mains à l'air. Alors, ceux-là qui pensent qu'ils ne sont plus dans ce niveau-là, ils peuvent ouvrir les yeux pour voir les frères ou les sœurs qui sont dans ce niveau, alors qu'ils aillent prier pour ces frères et ces sœurs. Ils peuvent se déplacer pour aller vous prier pour ceux-là qui ont levé la main. Donc, ceux qui ne sont plus dans ce niveau pouvaient être peut-être dans le niveau de sanctification, dans le baptême du Saint-Esprit. Alors, vous pouvez vous déplacer pour prier pour ceux-là qui ont levé la main.
Comme Jésus.
Vous pouvez même lui imposer les mains si vous êtes conduit à le faire.
Comme Jésus dans toute ma vie, être comme Jésus, être comme Jésus, alléluia, être comme Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie, être comme Jésus, marcher comme lui. Oui, alléluia, comme Jésus, comme Jésus de toute ma vie.
Vous pouvez vous déplacer pour prier pour les autres, parce qu'il y en a qui ne sont pas encore. Benoît, il y a des mains qui sont là pour qu'on puisse gagner du temps. Vous pouvez prier pour les autres aussi. Il y en a des mains qui sont là, il y a encore là. Vous pouvez prier pour le frère Karel.
Marchez comme Jésus. Alléluia, marchez comme Jésus. Je veux marcher comme Jésus dans toute ma vie. Marchez comme Alléluia, marcher comme Jésus. Je veux marcher comme Jésus dans toute ma vie. Marche comme Jésus. Marche.
Frère Benoît, il y a encore la sœur là-bas. Au coin. Qui est juste au mur. Il a levé la main. On n'a pas encore prié pour elle. Quelqu'un qui n'a pas encore été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je vais prier pour vous, ma soeur. Vous pouvez bien lever la... C'est vous, hein? Ok. Je vais prier pour notre soeur. Est-ce que vous voulez vous faire baptiser maintenant? Hein? Je ne comprends pas. Vous êtes prête ou pas, ou on prie juste pour vous? Vous pouvez lui transmettre ce qu'elle dit, en train de dire. Celle qui a levé la main.
Elle n'a pas encore l'âge.
Ah, elle a quel âge? Hein?
9 ans.
Ah oui, mais même à 8 ans. Enfin, non, je ne vais pas entrer dans ce... Bon, ça va. Mais je vais prier pour elle. Dieu notre Père, nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ces bons moments que tu viens de nous accorder. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs, Seigneur. Exauce toutes ces prières qui viennent de monter vers toi, alors que nous avons prié les uns pour les autres. Oui, c'est ce que tu nous demandes, Seigneur, puisque, ô Dieu, nous devons nous soutenir quand il y a un frère ou une sœur qui est encore dans le premier niveau, ceux-là qui sont dans un niveau un peu plus élevé, ils peuvent aider les autres. Seigneur, que toutes ces requêtes te parviennent. Je te prie pour notre sœur. Elle a 9 ans, mais elle a reconnu qu'elle n'est pas encore baptisée. C'est qu'il y a quelque chose qui est dans son cœur et qui puisse vraiment, oh Dieu, lui dire que le baptême, c'est quelque chose de très important. Et si je te demande, Seigneur, de bénir ce quelque chose qui est dans son cœur et qui l'a poussé à lever la main. Merci de bénir tous tes enfants. Ils ont enduré tout ce temps, Seigneur, que nous venons de passer ici. Tu es venu avec nous, retourne encore avec nous. Bénis nos maisons respectives. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur soit loué. Alors, nous terminons en vous transmettant les salutations de notre bien-aimé frère François. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse richement et que nous puissions recevoir ce que nous lui avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen.